Il est 18h sur France Culture, le journal. Un journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Les violences à Hong Kong gâchent les festivités chinoises. Alors que le régime communiste célèbre son 70e anniversaire, un manifestant hongkongais a été blessé par un tir de la police. Nous allons tout de suite à Hong Kong et à Pékin. Un an après l'assassinat de Jamal Khashoggi, Reporters sans frontières exige toute la lumière sur la mort du journaliste saoudien. Reportage d'Omar Waman. Quels sont les produits qui ont brûlé dans l'usine Lubrizol? Une manifestation est en cours à Rouen. Pour le savoir précisément, le préfet va apporter les réponses, promet Édouard Philippe. Dossier suivi par Claire Flochel et Pierre Neveu. Édouard Balladur et François Léotard renvoyés devant la justice dans le volet financier de l'affaire Karachi. Nous entendrons l'avocat des familles des victimes de l'attentat. La journée de fête nationale chinoise a été rebaptisée « journée de deuil national » par les manifestants hongkongais. Et tandis que la chef de l'exécutif local, Carrie Lam, participait aux cérémonies officielles à Pékin, des dizaines de milliers de manifestants ont envahi les rues de Hong Kong pour dénoncer, une fois encore, le recul des libertés et la violation du principe « un pays, deux systèmes » dans l'ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997. Mais des affrontements avec les forces de l'ordre se sont achevés dans le sang. Pour la première fois, un manifestant a été blessé par un tir de la police à balles réelles. Le reportage de notre correspondante Florence de Changy.
Les manifestations à Hong Kong ont viré aux émeutes dans 13 quartiers distincts et ont fait 51 blessés de 11 à 75 ans selon la direction des hôpitaux. Mais c'est le coup de feu tiré à très courte portée par un policier sur un lycéen qui tentait de le désarmer qui marquera la journée. Le jeune manifestant de 18 ans a été touché à la poitrine. Plus tôt dans la journée, Lee Chuk-yuan, un vétéran de la lutte pour la démocratie à Hong Kong, expliquait le sens de cette journée de manifestation.
Aujourd'hui, c'est un jour national de deuil, ce n'est pas un jour de fête. Et pendant que Xi Jinping montre son pouvoir militaire en Chine, à Hong Kong, on est capable de défier le Parti communiste. Parce qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait été totalement interdit de manifester, les gens sont quand même sortis dans la rue pour montrer leur détermination dans leur lutte pour la démocratie et contre le régime du Parti communiste.
La police aurait procédé à près de 100 arrestations aujourd'hui et plus de 1700 depuis le début du mouvement.
Florence de Changy à Hong Kong. Ces protestations et la répression qui s'en est suivie ont quelque peu éclipsé les festivités de Pékin. Le régime communiste chinois célébrait aujourd'hui son 70e anniversaire avec faste. Une grande parade et un immense feu d'artifice ont suivi un impressionnant défilé militaire. Le pouvoir chinois a exhibé à cette occasion la pointe de sa technologie militaire, comme a pu le constater Dominique André à Pékin.
La Chine a présenté son armée du futur. Pour la première fois depuis qu'il a engagé la réforme de l'armée populaire de libération, Xi Jinping a montré au monde entier les progrès technologiques considérables faits par son pays et aussi grâce aux apports de technologies étrangères, notamment russes, israéliennes, pakistanaises ou tchèques. Selon l'expert militaire chinois Ni Lexiong, ce sont des armes importantes qui ont été présentées ce matin, comblant en partie le retard que l'armée chinoise avait dans les domaines militaires, aériens et dans les missiles de grande portée pouvant transporter des charges nucléaires.
Dans l'avenir, c'est la marine qui va le plus se développer rapidement. La capacité de faire la guerre en haute mer est en train de se renforcer. L'armée de l'air a beaucoup amélioré le contrôle de l'espace aérien. Il y a des progrès dans les avions sans pilote, les radars. Si on fait une comparaison avec le monde entier, la force aérienne s'est développée rapidement. Une autre arme, c'est le Dongfeng 17, un lanceur doté d'un planeur hypersonique qui peut évoluer à une vitesse extrêmement rapide à la surface de la mer. Il est difficilement détectable par les radars.
À quoi sert cet étalage militaire? Dans une période où la Chine veut s'imposer dans la région Asie-Pacifique, elle montre qu'elle peut mieux dissuader les États-Unis d'intervenir par exemple dans la zone, que ce soit en mer de Chine ou à Taïwan. Reste à savoir si tout l'éventail a été divulgué aujourd'hui. Ni Lexiong ajoute qu'en Chine, la tradition veut qu'on ne montre pas tout aux gens de l'extérieur.
Dominique André, correspondante de France Culture en Chine. Les tensions entre la Chine et les États-Unis préoccupent l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC a fortement baissé sa prévision de croissance du commerce mondial pour 2019 de 2,6% à 1,2%. Les conflits commerciaux augmentent l'incertitude, souligne le directeur général de l'OMC. Et Roberto Azevedo avertit que la création d'emplois pourrait aussi être menacée. Aux États-Unis, la procédure de destitution de Donald Trump suit son cours, ce qui a le don de mettre hors de lui le président américain. Les auditions vont se poursuivre à partir de demain. La Chambre des représentants va d'abord auditionner l'ancienne ambassadrice en Ukraine. Mais beaucoup de questions concernent l'entourage proche du président, Grégory Phillips, à commencer par son avocat personnel, Rudy Giuliani.
Oui, parce que au-delà de ce coup de téléphone du 25 juillet entre Trump et le président Zelensky dont on parle depuis 10 jours et dans lequel Trump aurait demandé à son homologue ukrainien des informations sur Joe Biden, au-delà de ça, il y a effectivement le rôle joué par Rudy Giuliani. Alors vous l'avez dit, l'ancien maire de New York est l'avocat personnel du président. Et il a été mandaté par Trump pour enquêter sur le fils de Joe Biden, Hunter, et sur ses affaires ukrainiennes. C'est donc dans ce cadre-là que Rudy Giuliani a à plusieurs reprises rencontré des officiels ukrainiens à Kiev et sur le sol américain. L'avocat a visiblement occupé un rôle central dans toute cette affaire et c'est pour ça que la Chambre des représentants veut l'entendre. On ne sait pas encore s'il acceptera ou non de venir témoigner.
Et dans le premier cercle des proches de Donald Trump, Grégory, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et le procureur général William Barr vont eux aussi devoir s'expliquer.
Oui, alors d'abord Mike Pompeo, c'est confirmé, le patron de la diplomatie américaine était bien dans le bureau ovale aux côtés de Trump ce matin du 25 juillet lors du fameux coup de téléphone. Il y a quelques jours encore, le secrétaire d'État disait ne rien savoir de cet appel. Lui aussi, Pompeo est désormais dans le collimateur de 3 commissions du Congrès qui exigent qu'il leur remette des documents liés à cette affaire. Mike Pompeo parle ce soir de tentative d'intimidation de la part des élus démocrates. Et puis l'autre personnage, c'est William Barr, actuel ministre de la Justice, qui selon le Washington Post, a aussi sollicité l'aide de pays étrangers pour récolter là aussi des informations, mais sur une autre affaire, l'enquête russe, vous savez, celle qui a été menée pendant 2 ans par le procureur Robert Mueller. Là aussi, donc, il pourrait y avoir utilisation du pouvoir fédéral pour une enquête évidemment très politique. Giuliani, Pompeo, Barr, on parle là vraiment des hommes du président, de ses proches, qui tous les trois sont maintenant au cœur de cette tempête qui agite Washington depuis une dizaine de jours.
Grégory Phillips en direct de Washington. Le 2 octobre 2018, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi disparaissait à Istanbul. Quelques jours plus tard, on découvrait qu'il avait été assassiné et démembré à l'intérieur du consulat saoudien. Après avoir un temps nié le meurtre, Riyad soutient à présent que le journaliste a été tué par des agents saoudiens lors d'une opération non autorisée par le pouvoir. 11 suspects ont été traduits en justice, mais le procès qui a débuté en janvier se déroule à huis clos. L'ONG Reporters sans frontières a organisé ce matin une action pour exiger toute la lumière sur cet assassinat et l'arrêt des exactions contre la presse dans le royaume. Le reportage de Marwaman devant le consulat d'Arabie Saoudite à Neuilly-sur-Seine.
L'opération coup de poing n'a duré que quelques minutes, le temps d'entasser des mannequins démembrés devant la porte du consulat afin de rappeler les circonstances particulièrement atroces de l'assassinat du journaliste saoudien. Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières.
Ce qu'on a voulu démontrer à travers cette action, c'est que le temps n'efface pas la gravité de l'acte.
Quant aux récentes déclarations dans la presse de MBS, le prince héritier Mohamed Ben Salman, elles n'ont pas convaincu les militants de l'ONG. Sabrina Benoui, responsable du bureau Moyen-Orient à RSF.
Ce qu'il a dit dans l'interview, que c'était arrivé sous sa surveillance, mais pas sous son commandement. Donc quelque part, si on devait le résumer en une formule, responsable mais pas coupable. Un an après, c'est insupportable qu'un crime aussi barbare et aussi horrible que celui qui a été commis reste impuni.
À travers cette action, Reporters sans frontières a également voulu mettre en lumière les atteintes nombreuses à la liberté de la presse en Arabie Saoudite qui s'apprête à prendre la présidence tournante du G20. Christophe Deloire.
On ne peut pas légitimer l'Arabie Saoudite en acceptant que la présidence saoudienne du G20 soit une présidence normale.
Et selon RSF, une 30aine de journalistes ou blogueurs sont actuellement détenus arbitrairement en Arabie Saoudite.
Omar Waman. 12 États participent aujourd'hui et demain à la conférence de Vienne en Autriche pour définir des objectifs politiques contre les bombardements en zone peuplée. Toutes les 24 minutes, rappelle Handicap International, un civil est tué. Et l'ONG appelle notamment le gouvernement français à changer sa position politique. Écoutez Anne Herry, directrice de plaidoyer à Handicap International.
Aujourd'hui, 9 victimes sur 10 de guerre sont des civils. Aujourd'hui, les civils ne sont plus les dommages collatéraux, ils sont les principales victimes des guerres. Et donc, ce que nous demandons, c'est que les États prennent conscience de cette problématique pour adapter la façon dont ils mènent les guerres pour mieux protéger les civils en respect du droit international humanitaire. Il y a un groupe d'États qui a déjà été très proactif sur la question, mené par l'Autriche, l'Irlande. Mais effectivement, la France, pour l'instant, est plutôt en opposition à une idée de déclaration politique. Normalement, ce texte devrait être adopté en mars en Irlande et on espère que la France sera parmi les États à adopter ce texte en mars 2020. Ce que nous demandons, c'est que soit mis fin au bombardement en zone urbaine, l'utilisation d'armes explosives en zone peuplée, avec un échange de pratiques et politiques militaires pour mieux protéger les civils contre les guerres. Nous avons obtenu de vraies victoires en 25 ans de combat, nous avons fait interdire les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions. Aujourd'hui, le nombre de victimes a été divisé par 10 pour ces armes. 50 millions de mines antipersonnelles ont été détruites, donc c'est de vraies avancées. Et effectivement, aujourd'hui, une des problématiques majeures dans les conflits, ce sont les bombardements en zone urbaine, et c'est le combat auquel nous nous consacrons aujourd'hui.
Anne Herré de Handicap International, le micro de Nadine Epstein. Les craintes ne sont pas dissipées à Rouen. Des associations, ONG et syndicats se retrouvent devant le palais de justice pour réclamer des réponses et la vérité sur l'incendie de l'usine Lubrizol. Un rassemblement se tient aussi devant le siège de Lubrizol à la Défense. Bonsoir Claire Flochel.
Bonsoir.
5 jours après l'incendie, on ne sait toujours pas précisément où et comment le feu s'est déclenché. On ne mesure pas encore toutes les conséquences de la pollution. Le gouvernement a promis des résultats d'analyse pour demain ou après-demain.
Et en attendant, tout le monde a en tête cet immense nuage noir et les retombées de suie qui ont été constatées jusque dans les Hauts-de-France et en Belgique. Hier soir à Rouen, Édouard Philippe a tenté de convaincre les habitants que les odeurs qui persistent sont certes gênantes, mais pas nocives. Le Premier ministre affirme que la qualité de l'air n'est pas en cause. Mais dans 3 collèges, des enseignants ont fait valoir leur droit de retrait parce qu'ils s'estiment en danger grave et imminent. Des agents qui sont intervenus les premiers sur les lieux de l'incendie affirment avoir été pris de nausée. Ce que l'on sait aussi, c'est que l'amiante présente dans la toiture de l'usine a brûlé. Et c'est ce qui inquiète particulièrement la CGT. Gérald Lecor est en charge des questions de santé au travail à la CGT de Seine-Maritime.
On sait qu'une fibre d'amiante, qui est en gros 300 fois moins lourde qu'un de nos cheveux, on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas disséminée un petit peu partout dans l'atmosphère. Peut-être à des concentrations faibles, mais on a une inquiétude parce que l'amiante est un des cancérogènes sans seuil. Je suis désolé de le dire comme ça, c'est assez évident pour nous, hein, et avec les scientifiques avec qui on travaille, qu'on va avoir une recrudescence du cas de cancer.
Et à l'instant, le préfet de Seine-Maritime indique qu'il n'y a pas de risque avéré lié à l'amiante dans les premières analyses en tout cas. Le syndicaliste cite lui notamment l'exemple du World Trade Center. D'après une étude, le nuage toxique qui a plané sur Manhattan pendant des semaines après les attentats serait à l'origine de plus de 10 000 cas de cancer. Et il ne s'agissait pas d'une industrie chimique.
Merci Claire. Vous l'évoquiez, le préfet de Normandie donne en ce moment une conférence de presse pour indiquer la liste des produits brûlés dans l'incendie de l'usine Lubrizol, comme Édouard Philippe s'y était engagé devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée inaugurait cet après-midi sa nouvelle formule des questions au gouvernement, séance de questions unique de 2 heures avec l'introduction d'un droit de réplique et un temps de parole chronométré. À cette occasion, Pierre Neveu, le Premier ministre, a été vivement interpellé sur la gestion de cette crise.
Et oui, c'est dans un climat de méfiance dans l'agglomération rouennaise que s'est ouvert à 15h cette première séance de questions au gouvernement. Et très vite, le député de Seine-Maritime, Christophe Bouillon, a donné le ton en évoquant des ratés dans la gestion de crise depuis l'incendie ce jeudi, et même un sentiment de défiance.
Il faut aujourd'hui rétablir la confiance. Nous vous faisons des propositions pour plus de transparence et plus de concret. La transparence, ce n'est pas une faveur, c'est l'héritage même de Jacques Chirac qui l'a inscrit dans la Charte de l'environnement.
Transparence, voilà, le mot est dit, la pression est forte car les associations, les syndicats, les élus demandent des comptes au chef du gouvernement. Et c'est en communiquant de crise que le Premier ministre Édouard Philippe est monté au front. Tout à l'heure, il a tout d'abord réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire une transparence absolue.
Cette inquiétude, est légitime. Et il faut l'entendre, il faut la prendre au sérieux. Et il ne faut pas l'écarter du plat de la main, elle est parfaitement entendable et nous devons apporter des réponses claires.
Voilà, et au-delà du constat, le Premier ministre défend l'action des services de l'État depuis l'incendie. Il promet même la publication imminente de la nature des produits entreposés dans les bâtiments de l'usine.
Depuis fin 2017, monsieur le député Bouillon, et pour des raisons de sécurité que chacun peut comprendre, la liste complète des substances présentes sur les sites Seveso n'est plus rendue publique. Elle est connue, elle n'est plus rendue publique. Par exception, cet après-midi, le préfet rendra public les produits stockés dans les bâtiments qui ont brûlé et les quantités de ces produits qui ont brûlé. L'engagement est ferme à cette tribune et il sera tenu.
Et le préfet qui est en train à l'heure actuelle de communiquer cette liste de produits entreposés dans l'usine. Voilà maintenant 5 jours que le gouvernement peine à convaincre. 5 ministres se sont rendus sur place. Des pompiers qui ont été envoyés pour tenter de corriger les ratés de communication d'un préfet qui, ce week-end, a conclu à un état habituel de la qualité de l'air à Rouen, ou encore d'une ministre de la Santé qui a reconnu que la ville était clairement polluée. C'est donc dans ce contexte que les députés réclament la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information.
Un sujet sur lequel Emmanuel Laurentin reviendra à 18h20 avec ses invités. Peut-on garantir une transparence totale? Ce sera le thème du temps du débat. La Cour de cassation a confirmé définitivement le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. La plus haute juridiction judiciaire a rejeté l'ultime recours de l'ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy est poursuivi pour avoir dépassé le seuil de dépenses électorales de plus de 20 millions d'euros lors de sa campagne présidentielle de 2012. En dépit des alertes des experts comptables, il comparaîtra donc pour financement illégal de campagne électorale. L'ancien Premier ministre Édouard Balladur et son ministre de la Défense d'alors, François Léotard, ont eux été renvoyés devant la Cour de justice de la République dans le volet financier de l'affaire Karachi. Ce dossier concerne des contrats de vente de sous-marins et de frégates au Pakistan et à l'Arabie Saoudite, remontant aux années 1990, contrats qui auraient pu servir à financer la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995 via un système occulte de rétrocommission. Il aura fallu des années avant que ce dossier n'arrive dans la justice et une plainte des familles des victimes de l'attentat du 8 mai 2002. Leur avocat, Olivier Maurice.
Vous savez, la victoire pour les familles des victimes, et encore le terme est inapproprié, ce sera le jour où les commanditaires et les exécutants de l'assassinat odieux qui a coûté la vie à leurs proches, ces hommes seront jugés devant une cour d'assises. Le chemin est encore long. On a beaucoup menti aux familles dans ce dossier. L'État a beaucoup menti à plusieurs reprises en cachant des informations. Il a fallu tout de même que ce soit les familles qui agissent pour que cette affaire de financement illicite de la campagne de M. Édouard Balladur puisse être jugée. Est-ce que c'est vraiment le rôle, la mission des familles de faire cela à la place du ministère public qui aurait dû depuis l'origine porter cette action ? Cela pose tout de même de graves questions vis-à-vis de nos institutions. Est-ce qu'il n'y a pas eu, je le pense, une forme de protection de ces hauts responsables politiques, de M. Édouard Balladur, de M. François Léotard, afin de fermer les yeux pendant si longtemps, y compris, je vous le rappelle, devant le Conseil constitutionnel, puisque nous savons que les comptes de campagne de M. Édouard Balladur n'auraient pas dû être validés par le Conseil constitutionnel. Cela pose de véritables questions institutionnelles sur le fonctionnement de la justice, sur la mise en œuvre de l'action publique par rapport à ceux qui sont puissants et qui peuvent espérer qu'on les protège.
L'avocat des familles de victimes de l'attentat de Karachi, Olivier Maurice, se joint par Florence Turme. Rappelons qu'Édouard Balladur a toujours contesté ces accusations. La Convention citoyenne pour le climat est prête. Les 150 citoyens français qui la composent ont été tirés au sort et ils entameront leurs travaux ce vendredi. Cette convention, annoncée par Emmanuel Macron en avril, est présentée comme l'une des réponses au grand débat national et à la crise des gilets jaunes. Elle doit proposer des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Le Conseil économique, social et environnemental, en charge de l'organisation de cette convention, a fait le point cet après-midi. Rosalie Lafarge.
C'est une petite France qui a été recréée. 255 000 personnes ont été contactées pour arriver à la fin à ces 150 citoyens. Un tout petit peu plus de femmes que d'hommes. 6 tranches d'âge représentées. 6 niveaux de diplôme également. Les situations socio-professionnelles comme le type de territoire ont été prises en compte. L'idée étant donc d'atteindre une représentation la plus proche possible de la population française. D'après les organisateurs de la Convention citoyenne, les tirés au sort n'auraient pas été trop durs à convaincre. Preuve en est, souligne le CESE, que la démarche intéresse, tant par le fond fond du sujet climatique que par la forme du débat démocratique. Ces 150 citoyens vont devoir se poser une question: comment réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France d'au moins 40% d'ici 2030? Et pour y répondre, ils ont 6 week-ends de travail jusqu'à fin janvier. À l'issue, le président et le gouvernement s'engagent à soumettre les propositions citoyennes sans filtre, soit au référendum, soit au vote du Parlement, soit par voie réglementaire. Tout cela sera rappelé aux heureux élus vendredi, premier jour de la tenue de la Convention citoyenne pour le climat. Après un état des lieux sur le réchauffement climatique dressé par des climatologues, sociologues et économistes, avec la promesse d'évoquer pour chaque sujet les controverses qui existent, le Premier ministre en personne viendra exposer aux citoyens la commande du gouvernement, ses attentes et ses engagements.
Rosalie Lafarge. Demain mercredi, encore quelques averses du sud-ouest au nord-est. Ailleurs, le temps sera plus calme, hésitant entre nuages et éclaircies. Le soleil s'imposera dans le sud-est. Les minimales seront comprises entre 9 et 13 degrés sur la moitié nord, entre 11 et 20 plus au sud. L'après-midi, 14 à 19 de la Bretagne à l'Alsace, jusqu'à 21 à 26 dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.